Bonjour, bienvenue sur J'enrage, votre émission féministe de la métropole lilloise. Donc on est le 8 septembre, vous êtes sur RCV 99FM, c'est Annelle qui vous parle. Aujourd'hui nous allons parler du lien entre art et féminisme et nous avons comme invité Anne Cressel. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Suzanne, bonjour Zab.
Salut.
Salut.
Donc, je vais passer la parole à Suzanne pour présenter Anne Cressel et nous reviendrons sur le déroulé de l'émission un peu plus tard.
Voilà, aujourd'hui on est donc quatre. Parmi nous, Anne Cressel, qui est enseignante-chercheure à l'Université Lille 3 Charles de Gaulle, juste à côté d'ici en fait, et qui est docteur diplômée de l'HESS en histoire et théorie des arts. Ses recherches portent sur la survivance des mythes dans l'art contemporain et la mémoire inconsciente des images. Elle s'intéresse également aux représentations et aux constructions identitaires en jeu dans l'art. Elle coordonne depuis 2006 le groupe de recherche ASEGAMI, est-ce que je prononce bien ?
ASEGAMI, oui.
ASEGAMI, Analyse culturelle et études de genre, c'est l'acronyme pour Analyse culturelle et études de genre, art, mythes et images. Et depuis 2010, dirige le séminaire Figure du geste dansé, mythe, identité, interprétation. Elle a publié en 2009 Prêter son corps au mythe, le féminin et l'art contemporain et écrit plusieurs articles dans diverses revues universitaires. Il y a un article dont nous parlerons en particulier, qui s'intitule Le féminin, le féminisme et elle, puis qui a été publié en avril 2010 et qui est en rapport avec l'exposition LE2LES qui a eu lieu au centre Georges Pompidou en 2010. Et donc, justement, il aborde certains enjeux que nous développerons par la suite avec toi, Anne, notamment le lien entre l'opposition entre universel et différentialisme, entre des distinctions terminologiques, entre féminisme, qu'est-ce que parler d'art féministe, qu'est-ce que parler d'art féminin, qu'est-ce que parler de art de femme, comment le distinguer et quel est le rapport entre ces différentes terminologies. Voilà à peu près les sujets que l'on va aborder de façon assez concise. Tout de suite, on va vous balancer un extrait d'un documentaire de Lynn Hirschman qui s'appelle Women Art Revolution, donc la révolution des femmes artistes, quelque chose comme ça, qui a été réalisé en 2010 et qui avait été sélectionné par le MoMA parmi les meilleurs documentaires de l'année. Très rapidement, le documentaire revient sur le contexte des luttes féministes dans les années 70 aux États-Unis et plus spécifiquement sur la participation dans ces luttes des artistes femmes, leurs moyens d'action, la façon dont elles sont mobilisées, etc., etc. Tout de suite, l'extrait.
Minimalism was the prevailing tendency at that time. The whole ethos of minimalist art was to arrive at an ever purer notion of what an object could be.
I stepped forth from the university trying to figure out how, trained as a minimalist painter, I was going to make my work relevant to people I loved and cared about.
And there was that incredible disjunction at that point between content and the notion of making art. In other words, art was contentless. It was free and devoid of politics. And that was a higher form.
When you have a culture in a state of grave agitation, where people are marching by the hundreds of thousands in the streets.
Come on up, brothers, we are waiting for you!
And the leading artistic activity of the day is mute because of the way that that art is construed as an intellectual pursuit.
The growing tensions between minimal and feminist art are expressed in this performance, where one artist represents minimal art and the other feminist art as they wrestle for domination to the background drone of minimal art rhetoric.
Feminism may, in fact, be the most successful part, must completely on its self-conscious stage of the positivistic domination of the art world.
Voilà, alors on est de retour sur J'enrage. Suzanne, tu veux peut-être nous expliquer un petit peu le passage qu'on vient de passer de ce documentaire-là ?
Oui,
les non-anglicistes ou anglophones.
Oui, désolée hein, pour l'anglais, c'est pas un documentaire qui est très connu, donc on n'a pas de traduction. Voilà, alors en gros, il était question d'un courant artistique, particulièrement prisée, en vogue, enfin c'est peut-être pas le terme à l'époque, à savoir l'art minimaliste, que j'explique en quelques termes, vous excuserez, enfin Anne, tu m'excuseras pour les approximations, je ne suis pas spécialiste de la question. Mais en gros, l'art minimaliste, il y a quelqu'un, un intervenant qui explique quels en sont les principes. C'est donc voilà, un des courants que l'on peut rattacher à l'art conceptuel, on va dire de façon un peu schématique, et qui en tout cas atteint une abstraction assez extrême et qui va à l'encontre de notions comme l'art, enfin comme la contingence, etc., et qui formule un objet qui fait art et donc atteint une sorte de formalisme, voilà ça que je veux dire, de formalisme assez poussé. Et donc à cette époque-là, il est donc question en fait dans le documentaire d'une performance qui montre la contestation qui représente de façon un peu symbolique la lutte de point de vue entre un positionnement féministe dans l'art et un positionnement aféministe, un positionnement non féministe dans l'art contemporain. Il s'agit d'une performance réalisée par Barbara Smith et Nancy Buchanan qui, en 1974, et qui représente en fait deux corps qui s'affrontent, l'un représentant l'art minimaliste, l'autre représentant l'art féministe. C'est un affrontement physique, hein, il y a vraiment les corps qui sont en jeu, c'est une performance. Et donc, voilà, la question que je vais te poser, qui n'est pas forcément une question, plus une remarque sur laquelle on pourra embrayer par la suite, et qui fait écho à une phrase qui est prononcée ailleurs dans le documentaire par Rosa Rosenthal, qui dit donc « J'ai réalisé qu'être artiste voulait dire être homme. I realized that being an artist meant being a man. » Et l'un, du coup, des enjeux d'un art féministe, est-ce que c'est pas peut-être, je pose la question, de remettre en question une pratique artistique, un androcentrisme, en fait, et un art qui est détaché de son contexte de création, de l'identité de son créateur et des conditions matérielles de sa réalisation. Finalement, est-ce que la démarche féministe telle que le représente, par exemple, la performance dont je viens parler, qui est vraiment un exemple pour avoir une petite idée hein, des enjeux d'une démarche féministe, comment est-ce qu'on pourrait la définir ? Est-ce que c'est pas aller à l'encontre d'un art et d'un artiste, art et artiste, qui se prennent pour l'universel, on va dire, ou qui incarnent l'universel, qui est deux termes qui sont un peu antinomiques, justement, et le ramener à sa contingence, à sa matérialité, à sa particularité, et donc du coup visibilise la domination masculine, les rapports de pouvoir qui sont en fait absents du discours dominant en art. Bon, c'est plein de questions à la fois, je suis désolée, là, je me rends compte, je te bombarde de questions.
Non, en même temps, il y a tout là, donc j'ai plus grand chose à dire. En effet, je crois que la démarche féministe ou des artistes femmes de cette époque, c'est une démarche qui va à l'encontre d'une certaine idée de l'art comme déconnecté des contingences matérielles, qui met en avant l'idée du génie créateur, et génie créateur qui serait, comme par hasard, incarné tout au long de l'histoire de l'art exclusivement par des hommes. Qui représente l'universel, du coup. Donc, en effet, il y a vraiment cette...
Oui, comme une force créatrice qui habiterait l'artiste et pas qui proviendrait de lui-même.
En tout cas, la figure du génie créateur est conçue comme exclusivement masculine. Mmh. En fait, il y aurait comme une contradiction dans le terme, être artiste et femme.
Oui.
Et de fait, jusqu'aux années 70 du XXe siècle, il y a très peu d'artistes femmes. D'ailleurs, un des premiers ouvrages en histoire de l'art qui cette question, le premier article de Linda Nochlins s'intitule « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?» Donc c'est effectivement une question importante, parce que tenter d'y répondre, c'est mettre en évidence tout un système de l'art travaillé en effet par des...
Des impensés,
des enjeux de sexe, des enjeux politiques, qui sont en fait masqués derrière cet art qu'on voudrait pur et déconnecté de la vie.
Essayer peut-être de visibiliser l'impensé des structures psychiques patriarcales. Enfin, la formule est peut-être un peu, je sais pas, puisque tu travailles aussi sur l'inconscient. Est-ce que ton travail tourne également autour de la question de visibiliser un inconscient masculiniste ou visibiliser montrer les structures psychiques, je ne sais pas si tu travailles sur l'inconscient, d'une idéologie qui est en fait masculiniste et qui ne se dit pas comme telle, qui ne s'énonce pas comme telle.
Il y a évidemment une démarche de déconstruction en fait d'un prétendu universalisme ou d'une prétendue neutralité et l'affirmation de subjectivité autre, c'est vraiment les deux enjeux enfin, et selon les périodes où les sensibilités l'un a pu plus prendre le pas sur l'autre, mais c'est un peu une double démarche, un double enjeu quoi, de déconstruire un système et d'ouvrir à une pluralité de subjectivité.
Moi juste pour revenir dessus, et pour revenir surtout à ton article aussi, je pense que là du coup ce combat finalement entre art minimaliste et art féministe, c'était ça. En gros, oui, ça reprend exactement ce que tu expliquais dans l'article, cette espèce de... pas de combat, mais de...
dualité.
De dualité entre démarche universaliste, qui, comme tu viens d'expliquer, dissimule en quelque sorte un sujet masculin derrière, qui a été conçu par et pour les hommes, on va dire, et qui prend pas en... Et qui a une portée universaliste, mais qui, du coup, cache le fait que, finalement, c'est un art, finalement, qui a une certaine forme de contingence aussi. Et de l'autre côté, là, c'était donc la combattante qui incarnait l'art féministe, qui se référait plutôt à l'autre démarche dont tu parles dans ton article, qui est la démarche essentialiste.
Alors dans l'article, c'était plutôt en fait pour parler des mouvements féministes en fait, avec un positionnement plus universaliste, un positionnement plus différentialiste. Mais après là, c'est au sein de l'art une position d'artiste qui se veut universelle, et puis une inscription d'artiste femme qui est forcément perçue comme la différence et spécifique, puisqu'on doit dire artiste femme et pas artiste tout court, alors qu'on pourrait dire artiste homme.
C'est quelque chose que l'on peut revendiquer ou non, d'ailleurs, cette identité que l'on nous impose.
Bien sûr.
L'identité femme.
Mais c'est forcément complexe pour une femme. Être une femme artiste, ça va pas de soi comme être un artiste, tout court.
Ouais. Le neutre est en fait masculin, quoi.
Ben bien sûr, c'est ça le problème.
Ouais, c'est bien sûr ça le problème. Et d'ailleurs, je voulais revenir pour continuer sur ce que tu avais posé, Zap, comme question, et sur cette opposition entre démarche universaliste et démarche différentialiste, voire essentialiste. Tu abordes dans ton article un enjeu que je trouvais intéressant, qui était celui de parler de l'intérêt et des limites de la démarche différentialiste, qui, en fait, d'une certaine manière, à la fois lutte contre les notions de transcendance, j'explique peut-être un petit peu mal,
En gros, qui est nécessaire pour montrer que, finalement, derrière le point de vue universaliste, il y a un point de vue masculin.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est ça que je pense que tu
voilà.
veux dire.
Et les limites de cette pratique, de cette démarche, de cette épistémologie presque, enfin, de cette méthode, serait peut-être d'avoir tendance à essentialiser justement une subjectivité féminine, de la réifier, de construire une mythologie féminine précisément, sans la ramener... à son caractère historique, sociologique, etc. Et je pensais à une phrase notamment, et je sais pas, ça n'a pas lien avec l'art, c'est plus par rapport à mes lectures, quoi, de Virginia Woolf dans Une chambre à soi, qui parle de Jane Austen et de la réception de son œuvre, donc on était au 19e siècle, donc c'est pas le 20e siècle, mais qui dit que Jane Austen, génie de son temps, hein, je mets des guillemets justement par rapport au terme, qui était saluée par la critique, mais qui lui accordait du génie, du talent, dans les limites que son sexe, dans les limites de son sexe, c'est-à-dire les limites que de son talent, que
sa spécificité,
que son corps pouvait lui, voilà. Oui. Donc là où je voulais en venir, c'était finalement quel est comment sortir de cette impasse, peut-être qu'on n'en sort jamais, comment sortir de cette impasse entre définir une subjectivité féminine et finalement du coup renforcer l'idée qu'il y a une féminité entre guillemets comme ça, biologique, essentielle.
Bah c'est vrai que je montrais un peu les deux écueils possibles, hein, d'un universel qui ne dit pas qu'il est masculin en fait, qui est marqué, et d'un différentialisme qui risque de marquer une opposition et d'essentialiser le féminin, en effet.
Et toi, est-ce que tu aurais, dans tes recherches, est-ce que tu explores comment est-ce que tu explores ces problématiques, sur quel corpus d'artistes, pour qu'on ait peut-être une idée plus précise?
Justement, moi, je me suis plutôt intéressée à des œuvres d'artistes qui mettaient en scène plutôt une ambivalence sexuée, et qui du coup obligeait à revoir nos conceptions du masculin et du féminin, puisqu'en fait je continue un petit peu sur cette idée de ce double écueil, et du coup quelle stratégie adopter, puisqu'il est question de stratégie, hein, d'inscription face au problème que pose cette difficulté à être femme et artiste, sans être définie par son sexe. Et il me semble que par rapport, disons que ce débat universalisme-différentialisme, il est particulièrement présent en France, au sein du féminisme, et du coup il a marqué peut-être les théories. Et aux États-Unis sont nés des mouvements issus d'ailleurs de penseurs post-structuralistes français qui envisagent la différence, mais sans un dualisme, en fait, qui sont des relectures de Derrida, par exemple. Et du coup, les théories issues de ça, comme celle connue de Judith Butler, envisagent de la différence sans essentialisme. Et du coup, c'est plutôt ce positionnement, en tout cas, moi, qui m'intéresse au niveau théorique. Et les œuvres auxquelles je m'intéresse, du coup, ne sont pas des œuvres d'artistes qui revendiqueraient une spécificité féminine, mais plutôt des œuvres qui présentent, encore une fois, une forme d'ambivalence, ou qui questionnent le masculin et le féminin.
Tu pourrais nous donner un exemple de l'exposition qui était au Centre Pompidou.
Ah oui, je parle dans le livre d'une œuvre qui me semble importante, qui est une œuvre de Mona Hatoum, qui s'intitule « Corps étranger », qui est une cellule circulaire dans laquelle le spectateur peut entrer par deux portes assez étroites. Et au sol de cette cellule, occupant tout l'espace, sont projetées des images de l'intérieur du corps de l'artiste qui ont été prises à l'aide de matériel médical, caméra endoscopique, en fait, donc qui renvoie à l'examen gynécologique, mais qui en fait sert là à l'artiste, qui sert à pénétrer tous les orifices de l'artiste. Et les images dans lesquelles le spectateur se trouve sont des images très ambivalentes. On n'arrive pas à déterminer de quel orifice il s'agit. Les formes présentées peuvent être phalliques ou vaginales, alors qu'il peut s'agir simplement de la gorge, enfin. Donc voilà, ça crée un trouble par rapport à la nature de ce que l'on voit. Et trouble qui est renforcé par la position qu'on a en tant que spectateur, puisqu'on est dans un espace un peu fœtal, en fait, comme dans l'intérieur d'un corps. Donc il y a des choses qui se jouent, qui peuvent renvoyer au féminin, de l'intérieur, du ventre, de la mer, mais pas du tout dans une perspective essentialiste, en fait. C'est surtout ce qui me semble intéressant dans cette œuvre, c'est que ça fait réfléchir justement sur les images, à quoi on les associe, et ce qu'elles peuvent évoquer du féminin et ou du masculin. Et de fait,
on est troublé, on est perdu.
En tout cas, c'est pas possible de dire il s'agit d'un corps de femme,
mettre une frontière
intérieure
en fait,
de corps de femme. En plus, on est sur l'intériorité qui normalement devrait dire encore plus la femme.
Ouais.
Et là, ça trouble encore plus. Donc voilà, ce sont des pièces là qui m'intéressent. Voilà. donner un exemple, je sais pas si c'est...
Non, si, c'est très intéressant. Où est-ce qu'on peut voir cette œuvre?
Ben là, elle était remontée, puisqu'elle est, elle appartient au Centre Pompidou. Là, elle était montée pour l'exposition Elle at Centre Pompidou. Après, c'est selon le... Selon l'accrochage, ouais. On peut avoir la chance de la voir.
D'accord. Qu'est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on passe à la suite peut-être de l'émission?
Si, moi j'ai peut-être une question. Bon, là en l'occurrence, vous avez travaillé sur des œuvres qui sont un peu l'inverse de. Enfin, qui ne sont pas l'inverse, mais en tout cas qui ne s'inscrivent pas dans une démarche essentialiste. Mais on n'a pas vraiment d'exemple là aujourd'hui, à part Suzanne, tu parlais de. Tout à l'heure, d'œuvres qui ont été faites avec du sang de menstruation, etc., qui renforcent bien la spécificité féminine dans le processus de création, dans l'occurrence dans cette œuvre dont on n'a pas le nom.
Qui construit, qui construit un peu une mythologie féminine, voilà. Autour des règles comme fort symbole de la féminité, qu'on réinvestit, qu'on revalorise, qu'on remet au centre de l'attention, etc., face à une subjectivité qui, justement, n'existait pas, enfin, on lui redonne. Mais du coup, c'est vrai que c'est hyper essentialiste, c'est-à-dire que c'est presque produire un lien de causalité entre sang et identité femme, ce qui pose quand même problème.
Bah, y a beaucoup d'œuvres, en fait, qui vont dans ce sens, enfin, surtout d'ailleurs dans les années 70, enfin dans un premier féminisme qui était plus volontiers essentialiste d'ailleurs. Moi, je prends souvent pour exemple l'œuvre de Judy Chicago, Dinner Party, qui est une sorte de grande table de banquet qui reprend la forme triangulaire, faisant référence au vagin, avec les couverts pour la déesse de la fertilité et toutes les couverts pour toutes les femmes artistes. Enfin, donc il y a vraiment l'idée de reconstruire une généalogie au féminin et donc de remplacer l'idée d'un patriarcat par un matriarcat originel. Enfin, ça c'est une démarche en effet. Qu'il faut replacer dans le contexte de l'époque aussi.
Oui. Hein. Voilà, le féminisme deuxième vague qui n'a pas
été. Mais qui n'est pas a priori. Enfin, ce ne sont pas sur ces œuvres que je me suis arrêtée parce que voilà, ça correspond moins à l'idée que j'ai des rapports sexués.
Du coup, ma question, en gros, je trouve que. On vient de le dire, hein, ça a quand même vachement ses limites. On pourrait même, ce sera en extrapolant un petit peu, mais après on pourrait dire qu'il y aura un déterminisme hyper fort dans la création artistique et on pourrait parler de les artistes noirs qui font de l'art noir, les artistes riches qui font de l'art bourgeois et les artistes pauvres de l'art pauvre. Enfin, ce serait vraiment hyper simplifié, mais je pense que c'est le problème de la démarche essentialiste de manière générale. Est-ce que on peut quand même parler d'une forme de viabilité, je sais pas si c'est le mot si le mot est adéquat, mais est-ce qu'on peut quand même parler d'une comment dire quand il y a un déterminisme et le contingent qui est aussi fort dans la création, est-ce que c'est une œuvre d'art qui est j'aime pas le mot légitime, j'arrive pas à faire ma question en fait. Mais est-ce qu'il y a une forme de légitimité dans cette création artistique? Dans la mesure où, généralement, l'art a cette prétention à l'universel. Qu'est-ce que vous en pensez?
Est-ce que tu veux dire qu'en gros, il est plus difficile, peut-être, c'est ça cette question, je ne sais pas, c'est comme ça que je la comprends, il est plus difficile d'être légitimé du point de vue des institutions, enfin d'être légitimé, en fait, d'avoir une légitimité.
Du pouvoir artistique.
Si on se réapproprie une identité minoritaire, enfin, si on se réapproprie une identité, par exemple l'identité femme, une identité raciale,
qui serait contingente du coup.
Il est plus difficile d'être par la suite légitimé lors de la réception que si l'on se revendique d'une neutralité a priori.
C'est ça, axiologique, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Enfin, c'est ça.
Ouais, ça, c'est toujours des problèmes de stratégie et de risques inhérents à des choix de stratégie. En effet, en affirmant haut et fort sa spécificité féminine, on n'a plus droit au statut universel. Ouais. En même temps, cette position, aussi outrée qu'elle soit, elle oblige du coup à questionner.
Oui, c'est vrai. C'est
un universel. Donc, je trouve que, en tout cas, ça a sa légitimité de toute façon.
Ah oui, ça.
Mais ça correspond en plus historiquement à. Ce sont des pionnières plus de l'art féministe ou de l'art au féminin. Selon. Et. Après, je pense que l'autre solution qui consisterait à complètement masquer son identité de femme pour en aspirant à l'universel masculin, ça peut aussi poser des problèmes, en fait. Je pense que ça dépend vraiment des sensibilités, après. Hein.
Parce que justement, la question de l'universel est questionnée par le simple fait que parler d'un artiste, c'est forcément parler d'un artiste masculin. Si on spécifie CIPAC, il s'agit d'une femme.
Bien sûr.
Donc c'est vrai que la question de l'universalité de l'art est de toute façon
biaisée d'emblée. Et puis ça permet d'inscrire une résistance. Enfin, c'est tout l'intérêt de cette démarche aussi. Mmh. Une résistance, une solidarité.
Mmh. Après, on est aussi la différence, c'est entre des personnes qui sont là clairement des artistes qui se disent féministes,
ouais.
Et puis des artistes femmes qui n'ont pas forcément une sensibilité féministe.
Ouais, ça existe tout à fait. Donc, oui, bien sûr.
Non, c'est important de le dire parce que d'une certaine façon, on peut se dire que toutes les artistes femmes participent de l'émancipation des femmes et donc sont féministes. D'ailleurs, ce que peuvent défendre certaines théoriciennes. Mais voilà, il y a quand même des artistes qui sont clairement dans une démarche féministe. Et d'autres qui aspirent simplement, enfin, je sais pas si c'est pas simple, mais simplement à être artiste.
Eh bien, on
qui politise pas. Alors,
oui.
Peut-être, on reviendra d'ailleurs peut-être là-dessus, juste après la chanson qu'on va vous balancer. Je pense que ça peut être un sujet qu'on peut réinvestir de façon un peu plus approfondie. On va tout de suite vous mettre Mansfieldia, Animal, dans l'adieu l'album NYX 2011.
Ou N-I-Y-X peut-être.
N-Y-X
2011. Je ne sais pas si...
Ok, voilà. C'est la chanteuse de Sexy Sushi, Rebecca Warrior. Voilà, à tout de suite.
Thank you.
Voilà, nous sommes de retour donc sur RCV 99FM, je le rappelle, nous sommes toujours avec Anne Cressel.
Et c'est Jean-Rage.
Et c'est Jean-Rage, mais c'est toujours Jean-Rage. On va pas tout à fait revenir sur le propos qu'on tenait précédemment, on va plutôt se recentrer sur la place des femmes dans l'histoire de l'art. Donc je vais laisser ou Anne Cressel pour introduire le propos, ou Suze ou Zab, si vous avez des choses à dire.
Mais finalement, Zab,
vas-y.
Est-ce que déjà tu parlerais, Anne Cressel, d'histoire de l'art féministe, c'est-à-dire une histoire de l'art qui prendra à rebours le discours, l'histoire de l'art dominante, c'est-à-dire avec son panthéon d'artistes canonisés, qui sont faits tous masculins, enfin tous des hommes blancs. Est-ce qu'une histoire de l'art qui prendrait à rebours cette histoire de l'art et qui remettrait au goût du jour, ou ferait sortir des silences de l'histoire des femmes artistes, est-ce que tu parlerais d'histoire de l'art féministe? Et ensuite, de manière générale, qu'as-tu à dire sur ce statut de femme artiste? Voilà, je pense, mes deux questions.
Moi, déjà, je ne parle pas très volontiers d'histoire de l'art féministe. Je me sens assez proche de Griselda Pollock, qui préfère parler d'intervention féministe dans l'histoire de l'art.
Okay.
En fait, parce que sinon, on est vraiment, là encore, dans une catégorie enfermante. Et qui montre bien dans ses écrits qui donne au mot intervention tout son sens, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une mise en critique des fondements de l'histoire de l'art par une approche féministe. Mais ça ne veut pas dire qu'après l'histoire de l'art elle devient féministe,
ouais.
Qu'il y a une histoire de l'art féministe,
ouais.
Plutôt cette idée-là. Mais en tout cas, avec des questions posées dans les années 70 par Griselda Pollock ou Linda Nochlin, on a vraiment une remise en question des fondements d'une discipline, de la discipline histoire de l'art. On a parlé tout à l'heure du génie créateur, qui est un des fondements, et aussi une remise en question de la répartition sexuée des rôles dans l'art, en fait. On a en effet jusqu'aux années 70, la figure de l'artiste est presque exclusivement masculine. La femme n'est pas absente, mais... elle est absente en tant qu'artiste, elle est présente en revanche dans les nombreux tableaux, sujets mythologiques ou autres. Et donc la femme, elle a ce statut particulier d'image, enfin assimilé à l'image. Et du coup, cette répartition sexuée, elle rend difficile en effet l'affirmation en tant qu'artiste femme, puisqu'on a une polarisation... très net. Donc comment, face à cette tradition, des artistes vont s'affirmer? Moi, c'est la question qui m'intéresse et qui était un peu à l'origine de mon travail de recherche.
Oui. Et du coup, face à toutes ces... cette invisibilisation des... attends, j'essaye de retrouver un petit peu le fil du...
Sinon, moi, j'avais quelques chiffres que j'ai repris d'un article qui s'appelle Women in Art, Why Are All the Great Artists Men, qui est écrit par...
C'est l'article de Linda Nochlin.
Ouais. Non, là, c'est du coup un article qui est écrit par Kira Cochrane, mais c'est pratiquement le même titre,
d'accord.
En fait.
Ah oui, 2013. D'accord, c'est la reprise avec... D'accord, j'avais pas...
Ouais, je pense que c'est la reprise du titre qui a été publié dans la version internet de The Guardian, donc le journal britannique. Et en fait, dedans, elle parle de groupes de femmes activistes des années à la fois 80 et d'aujourd'hui. Et en gros, elle racontait comment un groupe féministe récent qui s'appelle UK Feminista a fait en 2010 une espèce d'enquête où, en gros, elle montrait que 83% des artistes qui est exposée au Tate Modern, donc qui est la Galerie Nationale d'Art Moderne en Angleterre, étaient des hommes, et 70% des artistes de la Saatchi Gallery, qui est une autre grande galerie importante, étaient également des hommes, donc il n'y a quasiment pas de femmes. Et à côté, un autre groupe d'activistes, je ne sais plus si elles sont américaines ou anglaises aussi cette fois-ci, qui s'appelait Guerilla Girls, qui sévissait dans les années 80, donc, et qui dénonçait les inégalités raciales et de genre dans l'art, ont fait plusieurs interventions, et en 1989,
elles ont en gros elles ont affiché un grand poster reprenant le tableau de Ingres, la grande odalisque, avec un masque de gorille, c'était leur marque de fabrique en gros. Et elles avaient écrit sur l'affiche, en anglais mais je vous traduis directement, « Les femmes doivent-elles être nues pour entrer dans le Met Museum ?» Donc là, c'est le Metropolitan Museum de New York. Et il est écrit juste en dessous, « Moins de 5% des artistes sont des femmes dans les départements d'art moderne, mais 85% représentent des femmes nues. » Donc justement, il y avait cette dualité où
femme-objet.
La femme est objet dans l'art et le sujet est masculin aussi. Quoi.
Ben oui.
Voilà, c'était juste... Je trouvais
la
ça
femme, a effectivement, le rôle soit d'image ou de modèle, mais l'artiste, enfin, dans l'atelier, les représentations de l'atelier, on a l'artiste masculin, le modèle féminin.
Est-ce qu'il y a des artistes qui jouent de ce statut-là, de modèle et
bon, en tout cas, Caroline Schneemann, par exemple, a repris cette idée de la posture du modèle vivant en fait dans une performance.
D'accord.
Ensuite elle sort son vagin du papier qu'elle déroule. Donc oui, il y a des voilà, c'est celle-ci qui me vient à l'esprit.
Ouais,
mais
oui,
bien évidemment, de toute façon dans des démarches féministes d'artistes femmes, il y a évidemment des reprises de ces codes en fait en vigueur dans l'art en fait pour principe de déconstruction, de réappropriation. Alors ça peut être plus ou moins évident, quoi, comme une reprise en inversant les rôles ou plus inconscient d'ailleurs. C'est plutôt d'ailleurs ces œuvres-là qui retiennent mon attention, quoi, comment assez subtilement on peut infléchir les choses. Mais toutes les stratégies, encore une fois, sont légitimes. Enfin.
Mais du coup, peut-être pour revenir exactement sur l'histoire de l'art et donc cette intervention féministe, finalement, c'est quoi une intervention féministe dans l'histoire de l'art ? Est-ce que c'est juste une réhabilitation de la participation des femmes ?
Oui, on va répondre à la deuxième partie de la question à laquelle je n'ai pas répondu.
Est-ce que c'est une réhabilitation seulement, enfin seulement, c'est déjà ça, des femmes dans la création artistique ? Ou est-ce qu'il y a plus que ça ? Est-ce que c'est aussi dévoiler certains mécanismes qui leur permet pas d'accéder justement à cette sphère de création
ou... Il y a tout ça, là aussi, comme il y a des stratégies dans l'art, il y a des stratégies dans l'histoire de l'art, en fait, dans les théories l'histoire de l'art. En effet, certaines théoriciennes ont tenté d'aller rechercher des artistes dont on avait perdu la trace pour montrer qu'il y en avait par rapport à l'article. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes, en tout cas de chercher des artistes femmes du passé. Ça peut être une démarche, en effet. Et puis, il y a la démarche dont je parlais tout à l'heure, qui serait plus celle de Griselda Pollock, qui est plutôt l'idée de déconstruire le discours dominant, en fait, et d'assumer, enfin, d'une certaine façon, qu'il n'y ait pas d'artiste femme très connue, en effet, à la hauteur de Michel-Ange ou autre. Mmh. Et de plutôt, et sans, disons, dire néanmoins que l'art serait masculin, de chercher des traces de subjectivité enfouie. En fait, c'est l'idée que l'art, même s'il est fait par des artistes hommes, il est travaillé aussi par des subjectivités autres, et des subjectivités contre lesquelles on construit cette identité masculine aussi. Donc ça me paraît assez intéressant comme position, parce que du coup ça veut dire que si l'art est globalement véhicule de l'idéologie dominante, et parce qu'il est véhicule de l'idéologie dominante, il contient du refoulé et des espaces d'inscription possible de l'altérité, de la différence, et de subjectivité.
Donc là, l'enjeu, finalement, ça va nous peut-être permettre de passer à une autre partie de l'émission, enfin une autre partie, un autre enjeu peut-être de l'émission, je sais pas. On avait dit qu'on parlerait des distinctions terminologiques entre art féminin, art féministe, art de femmes, part pour les femmes, je sais pas. Ce que tu viens de nous donner, si j'ai bien compris, si je reformule, c'est l'exemple d'un à travers de la réception, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut lire des mythes qui ne sont pas nécessairement définis comme, mais que tout l'enjeu de définir si un art est féministe ou pas, par exemple si on parle de féminisme, après il y a femme, féminin, se situe au niveau de la réception. Ça, c'est ma première question, c'est-à-dire finalement, comment définir féministe ou pas féministe à propos d'une artiste femme. Et deuxième question, féminin ou pas féminin. Je ne sais pas si ma question est très claire, ceci dit.
Si, moi, à vrai dire, de définir si une chose est féministe, enfin si une œuvre est féministe ou pas, une artiste féministe ou pas, c'est pas vraiment
ton objet,
c'est pas
ton...
le plus important pour moi, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir combien une œuvre elle est riche et combien elle questionne les choses. C'est la valeur, disons, que j'accorde à une œuvre et par là à une artiste, c'est plutôt lié au potentiel, je ne sais pas si on peut dire subversif, mais disons voilà, plutôt à sa capacité à questionner les représentations qu'on se fait du féminin, ce serait ça. Mais après que l'artiste ne se revendique pas comme féministe ou se revendique comme féministe, c'est finalement pour moi assez accessoire.
Anecdotique,
en fait.
Quoi.
Oui, d'accord. Enfin, en même temps, moi, enfin, personnellement, quelque chose qui, enfin, une œuvre qui, dès le départ, remet en question un certain ordre, c'est ça. Même sans se revendiquer féministe, moi je pourrais mettre. Je considérerais qu'elle est féministe.
Bien sûr, moi aussi.
C'est comme si l'artiste était féministe malgré lui.
Tout à fait.
C'était ma question, en fait. Oui. C'était finalement que l'enjeu se situe au niveau de la réception, c'est-à-dire que finalement, c'est à la critique, aux critiques, à l'interprétation, au public, à celui qui réceptionne, d'y lire ou pas un enjeu féministe, mais que peu importe si ensuite l'artiste s'est revendiqué comme ou pas, en fait. C'est assez anecdotique.
Oui, en tout cas, les œuvres qui m'intéressent fonctionnent plus comme ça, c'est-à-dire qu'elles ne s'énoncent pas a priori comme féministes. Elle joue, à mon avis, plus subtilement sur une attente qui pourrait être universelle, tout en déplaçant les choses. Et moi, c'est la stratégie qui me convient le mieux, je dirais, ou en tout cas qui me parle le plus. Et puis, de mon point de vue,
ça c'est assez personnel, mais je trouverais ça triste que l'on se concentre, même par exemple en tant que féministe et férue d'art, par exemple, que l'on se concentre sur un corpus militant, et donc explicitement militant, alors qu'il y a, je pense, un corpus extrêmement vaste où il doit y avoir des richesses énormes.
Ça c'est les limites après de ce qu'on a connu de. D'un art socialiste ou d'un c'est les limites d'un art militant, je dirais, ou d'une catégorie autant liée à des revendications sociales. Le risque là, c'est toujours que les œuvres soient le véhicule essentiellement d'une idéologie, en fait.
Et qui est, ceci dit, aussi très important, que c'est sûr
que
ça existe,
bien sûr.
Mais après, ce serait vraiment super extrémiste, mais en politisant à outrance l'art, on entre dans de la... Enfin, pas de la propagande, quoi, pratiquement, la frontière est très mince, quoi, je pense.
Exactement.
Ouais, et là, c'est l'objet d'un débat encore, mais vachement intéressant, quoi, justement.
Et juste, pour revenir une dernière minute sur ça, parce que je pense pas que ce soit non plus le centre de l'émission, mais est-ce que finalement, politiser son art, de la même manière que, enfin, le rendre contingent, ou en tout cas mettre en valeur le fait que l'art soit contingent, est-ce que le politiser ou faire passer un message, c'est pas, d'une certaine manière, pas le dévaloriser, mais lui enlever sa légitimité, justement, pour revenir à... Enfin, sa portée universelle, quoi.
Bah, bien sûr, c'est toujours une manière de catégoriser, et donc de réduire le champ d'action, à mon avis. Après, de toute façon, c'est politiser, comme je dirais... comme toi, que c'est féministe, bien que ça ne se revendique pas. C'est politique aussi. Mais disons qu'il me semble que la portée est plus grande si la catégorie n'est pas restreinte.
Le problème d'étiqueter les choses, c'est aussi que, d'une certaine manière, si on les étiquette de manière trop... précise, on exclut aussi beaucoup de choses.
Bien sûr.
Des œuvres qui peuvent être revendicatif ou des œuvres qui peuvent dénoncer une certaine forme de domination peuvent militer dans un sens sans forcément que l'artiste ou que l'œuvre ait été conçue de manière militante.
Bien sûr.
Et moi j'ai une question, mais alors là ça n'a plus vraiment rien à voir, mais on reste dans le sujet. Hein. Finalement, comment on pourrait définir une œuvre féminine? Donc c'est quoi un sujet féminin?
Et alors ça, je suis encore plus embêtée qu'avec féministe, oui.
Et est-ce que finalement une femme fait forcément de l'art féminin? Là, je pense que c'est une question. Enfin, je pense qu'on connaît déjà la réponse, mais comment tu définirais finalement la féminité?
Le terme féminin. Voilà. Oui, art féminin, ça me semble encore plus dangereux, disons, qu'art féministe. Voilà. Parce que là, vraiment, si on parle d'un art féminin, c'est qu'il y a vraiment, il y aurait des qualités propres au sexe féminin. C'est pas du tout mon idée.
Non, enfin, moi, je parlais plutôt dans le sens construction d'un sujet féminin. Enfin,
d'un féminisme un peu essentialiste, c'est-à-dire, d'un féminisme qui croise les idées d'Hélène Cixous, par exemple.
D'accord, alors plutôt l'idée d'un féminin de l'art, enfin, ou quelque chose qui...
C'est quoi l'art au féminin? Est-ce que c'est seulement des artistes femmes qui font de l'art comme des hommes, ou c'est quoi exactement, en fait?
Alors pour,
c'est ça ma question, je pense.
Pour moi, parce que je ne vais parler que pour moi, pour moi, l'art au féminin, c'est effectivement de l'art fait par des femmes. Mais derrière cet intérêt pour des artistes femmes, il n'y a pas du tout l'idée d'une spécificité féminine.
Voilà, d'accord. Donc pas du tout, c'est une terminologie utilisée pour indiquer une réalité matérielle des femmes, qu'elles sont étiquées genre féminin, elles sont perçues comme...
Oui, comme dirait presque un artiste masculin.
Voilà, qui n'induit aucune forme de contenu, quoi. C'est le contenant sans le contenu. Okay. Mm-hmm. Et sinon, j'avais du coup une question...
Je peux peut-être rajouter une chose, c'est qu'en effet, je pense pas qu'il y ait une spécificité masculine ou féminine. Mm-hmm. Maintenant, je pense qu'une œuvre, elle est forcément marquée par son auteur.
Voilà,
mais c'est son sexe, son ethnie, sa place dans l'échelle sociale. Enfin voilà, il y a plein d'éléments. C'est-à-dire que c'est pas l'élément révélateur, mais c'est un élément parmi d'autres qui n'est pas anodin non plus. Ouais. Dire que c'est que, enfin, je ne veux pas dire non plus que ça
marque,
ça marque pas, mais ça marque comme d'autres éléments.
Bien sûr. Et en fait, depuis tout à l'heure, il y a juste une chose qui me gêne un petit peu, et d'ailleurs, tu en parles dans ton article, c'est qu'on est en train de faire quelque chose, je pense que souvent, en plus, on est là, on essaye de lutter un peu contre cette réduction, mais en fait, on est en train d'assimiler un peu féministe à femme, pas tout à fait, mais en présupposant que le sujet du féminisme, c'est un sujet femme, et dans ton article que tu as publié sur le site Elle...
C'était le blog, en fait, c'était
le blog de Pompidou par rapport à l'exposition Elle au pluriel, tu précises bien que le féminisme a évolué, enfin il y a plusieurs féminismes déjà, et que s'intéresser aux subjectivités minorisées, ce n'est pas nécessairement s'intéresser qu'aux femmes qui sont, du coup, cette catégorie est très homogénéisante, mais à toutes les minorités qui peuvent être femmes ou non, femmes non blanches, etc., etc. Hétérosexuelle, lesbienne, je sais pas, ça me semblait important de le souligner, et je sais pas si dans ton travail tu fais cette distinction, tu as ça en tête ou pas, peut-être pas.
J'ai ça en tête, c'est-à-dire que le groupe de recherche dont tu parlais tout à l'heure, là, que je coordonnais avec Giovanna Zaperi, qui avait fait sa thèse à peu près en même temps que moi sur des questions de genre aussi, c'était assez Gami, analyse culturelle et études de genre, armité image, justement, ça croisait approche du genre et approche postcoloniale. Donc en fait, on avait vraiment, pour nous, ça fonctionnait ensemble.
Croiser les questions raciales.
Alors personnellement, moi, je me suis moins intéressée à la question postcoloniale, mais j'ai ça en tête. Et les artistes auxquels je me suis intéressée présentent en tout cas une double appartenance culturelle, et il me semblait que cette particularité les rendait particulièrement sensibles au phénomène d'exclusion et à la question de l'altérité. Donc voilà, j'ai forcément en tête ça, oui.
Tu pourrais donner des noms d'artistes
Les artistes sur lesquels j'ai travaillé
Sur lesquels tu as travaillé, qui peuvent peut-être croiser ces questions
Mona Hatoum, déjà, oui, puisqu'elle est d'origine palestinienne, elle a vécu au Liban, donc une dimension très politique, et...
où elle a pu, enfin où il y a la question de l'Orient, de l'Occident, qui travaille son œuvre.
D'accord.
Voilà, par exemple, Gada Hammer aussi, d'origine égyptienne.
D'accord.
Ok. On va faire une dernière petite pause et puis on reviendra pour terminer l'émission. On va vous passer un dernier morceau donc de Yoko Ono qui s'intitule Woman Power, tiré de l'album Feeling the Space qui est sorti en 1973 et qu'elle a elle-même étiquetée féministe. Donc il y a plusieurs titres sur cet album que je vous encourage à les écouter qui se revendiquent clairement d'un certain féminisme. Voilà, à tout de suite.
Make no mistake about it, brothers. We women have the
retrouve dans 15 jours. Donc on sera le dimanche 22 septembre et on sera pour une émission avec Marie-Hélène Poursier, qui est donc une enseignante chercheuse également à Lille 3. Voilà, pour le moment, on a fait une émission avec Anne Cressel, qui est autour de art et féminisme. On était toutes les quatre, Zab, Anaëlle et moi. Et je pense qu'on peut clore l'émission. Il est presque 17h. Vous êtes bien sûr Jean Rage, RCV 99 FM. À dans 15 jours.
Salut, à bientôt.
Salut, merci.